et c'est Richard Dacoury, 16 ans de fidélité à Limoges, qui ce soir est récompensé à l'issue d'une carrière exemplaire.
Mai 1993, tout le monde se souvient du sacre de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des Champions de football. Pourtant, quelques jours plus tôt, un club de basket allait marquer à jamais l'histoire du sport français en devenant le premier à remporter un titre de champion d'Europe tout sport confondu. Cette équipe, c'est le CSP Limoges.
Le cercle blanc est magique, c'est la nouvelle salle de France.
Le CSP est le plus grand club d'Europe.
C'est l'une des plus belles histoires de l'histoire du basket français et même du sport tout court. C'est une histoire exceptionnelle.
Le CSP.
Et oui, bonsoir, le cercle, émission sur le CSP, émission faite par et pour les supporters, émission hébergée depuis des années déjà maintenant sur Bob FM 89.0 et également on retrouve un podcast sur bobfm.org. Voilà, donc encore une fois, c'est pas la même voix, encore une fois, on va faire sur notre gala, on va faire ce qu'on peut. On commence à être habitué, hein, mon pote. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, par contre, je t'entends pas du tout, moi. Non. Et si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Vas-y. Chami. Oui, alors du coup, le temps qu'on essaye de. Encore une fois, je me manquerai plus jamais de gros seb sur la technique. Plus jamais.
Qu'est-ce qui t'arrive?
J'entends pas Pat.
T'entends pas Pat?
Non.
Mais pourquoi?
Eh ben, c'est point. Parce que peut-être qu'il faut que je lève le son.
Non. Il arrêtait pas de dire du bien. Oui, tu as raison. Il ne marche pas. Oh merde, il est à droite, il est pas à gauche. Oh là là, je te jure.
Ah, on le savait que c'était un gars celui-là.
On t'avait mis à gauche, Patrick. Bizarre. C'est pour ça qu'on s'est dit que ce mec-là est toujours à gauche et là, t'es à droite.
Vas-y, parle.
Bonjour à toutes.
Tu nous avais manqué, Pat. Merci d'être là avec moi. Je me sentais un petit peu seul.
Non, tu t'en sortais très bien.
Ouais. Et j'ai appelé à l'aide comme une petite collégienne dans une allée noire, tu sais. Ouais, bon,
j'aime
bref.
Quand tu parles des petites collégiennes.
Ouais. Je vais arrêter les analogies. On va finir en tôle. Alors, du coup, je disais quoi? Oui, on va faire sans notre Seb habituel qui n'est pas là pour ce soir, mais on a quand même un petit programme qui est assez sympa, qui est assez chargé. Il y a de quoi parler si on veut. On a une heure pour le faire, on va essayer d'attaquer. Avant ça, je vais m'ouvrir une bière. Donc, dans les actions de la semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il n'y a pas eu grand chose. Hein.
Au rayon infirmerie, c'est vrai qu'on est un petit peu épargné depuis quelques temps.
Ouais.
Évidemment, on a toujours Blex qui est sur la touche.
Sur
mais bon.
La cale, et on pense qu'il ne reviendra pas. Enfin, en tout cas, on ne voit pas.
On a notre quota d'Américains, donc c'est. Je ne suis pas sûr qu'il soit remis à 100%. Et puis bon. Non. Déjà qu'il avait eu du mal la dernière fois avant de revenir, donc là, ça paraît assez compliqué. Les joueurs ont. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais il m'avait l'air un peu fatigué la dernière fois, donc je pense que le break a fait du bien.
Oui.
Ah, t'es pas convaincu. Bon, alors c'est là que c'est difficile d'être deux, parce que quand il y en a trois, ça peut faire deux contre un et on fait une majorité.
Non, mais alors de par le résultat du match, je peux pas te dire qu'ils étaient en forme et qu'ils sont sortis les doigts quoi. Ok, c'est pas bon, même si on en reparlera tout à l'heure. Non, je les sens pas plus que ça. Forcément fatigué en fin de saison. Alors, par contre, ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que maintenant, on le sait, on va arriver en play-off, on est qualifié en play-off. Oui, merci Monaco. Ou pas. Merci à nous d'avoir joué suffisamment de matchs et d'avoir gagné suffisamment de matchs pour être à notre place, qui est méritée pour le moment. Du coup la transition était toute faite sur les playoffs, on voulait parler de ça, effectivement, que un des objectifs de la saison était atteint, le maintien en playoff, en tout cas dans le top 8, le maintien dans le top 8 du playoff.
Un peu inespéré en début de saison.
Tout à fait, quand il y a 3 mois on était 12e, on pouvait se poser des questions, effectivement.
Et on se posait la question de savoir à combien de victoires on pouvait espérer se maintenir. Juste avant qu'il y ait cette... Mais je crois que je l'avais annoncé, mais malheureusement, on n'a pas pu poster cette émission.
Ouais.
Donc, il n'y a plus d'archives, mais j'avais annoncé qu'on finirait en play-off 3 jours avant la fin. Non, mais c'est complètement inespéré. En plus, ce qui est rigolo, c'est que ça s'est fait sur un résultat sans que l'on joue avec Monaco qui vient nous délivrer.
Non, par contre, il y a quelques semaines, tu avais annoncé que pour les playoffs, il fallait en général entre 16 et 18 victoires.
Non.
C'est ce que tu avais dit.
Et que j'avais dit 18 à 20.
Ah bah alors, alors bien sûr il reste encore 3 matchs à jouer et donc les derniers qualifiés pour les playoffs peuvent bouger, donc qui sont pour le moment Strasbourg, Pau et Cholet, ils sont à 18 et 17 chacun. Donc on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin de la des 18 pour être pour espérer être en playoff.
Avec des équipes qui ont des dynamiques vraiment opposées, Cholet qui revient du feu de Dieu, c'est l'équipe la plus forte depuis quasiment à part l'Asvel depuis 2 mois. Et Le Mans qui n'arrête pas de s'enfoncer, qui était très solidement installé en haut du classement et qui ne va peut-être pas faire les playoffs. Alors qu'ils ont un bon fond de jeu, ils ont fait une bonne saison, mais ils ont été minés par les blessures. Donc tant pis pour eux, hein, ça arrive. Mais eux, ça arrive régulièrement. Ça fait 2 années de suite qu'ils ne sont, qu'ils sont pas épargnés. Donc bon, tant mieux. Donc comme tu le disais, bah, merci à Monaco qui nous a un petit peu simplifié la tâche en allant gagner l'autre jour.
Et tout à fait.
Ah oui, tu étais perdu là, en train de regarder des sites pour adultes.
Exactement. Non, j'essaie de regarder le générique pour la fin pour ne pas planter comme la dernière fois.
Ah, tu prépares déjà la fin de l'émission.
Tant que tu as été inspiré sur le développement des playoffs, je profitais pour ne pas avoir à faire ça en catastrophe à la fin. Et donc, dans ces playoffs, comme on disait, donc, on peut dire merci ou pas à Monaco, encore une fois, on a mérité notre place. Même si, grâce à eux, on sait que sans jouer les 3 derniers matchs, on sera, quoi qu'il arrive, dans les playoffs. Reste à voir à quelle place, ça on en parlera après. Petite transition sur Monaco et on en profite que le gros soit pas là.
Voilà, là on se fait plaisir, hein. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire d'habitude, on le fait.
On est brimé.
Il y a de la bière, on va parler des anciens, on va dire des insanités.
On
va dire qu'Indochine c'est nul, parce que ça tout le monde le sait, c'est Indochine c'est horrible.
Non, je peux pas laisser dire tout et n'importe quoi par contre.
Ah, par contre, tu peux couper mon micro, donc on va faire gaffe.
Ouais.
Et donc, ouais, un mot sur l'Euroleague, ouais.
Vas-y. Moi,
je suis pas fan de Monaco, mais il faut souligner quand même leur super parcours en deuxième partie de saison, qui, en changeant de coach, en passant de Mitrovic à comment il s'appelle, c'est Obradovic.
Non, c'est toi qui fais.
Ah là, mais c'est Sacha, l'ancien joueur du CSP. Qui a fait une courte saison à Limoges. Bon, ils ont complètement renversé la vapeur. Ils sont devenus l'équipe poil à gratter de EuroLeague et ils ont échoué d'un poil de cheveux dans la salle de l'Olympiakos avec une ambiance pas possible.
Ouais, on peut clairement regretter le match 3 à Monaco.
Ils perdent la qualification.
Ils perdent la série là-dessus,
là,
ouais. C'est sûr. C'est clair. Parce que bon, ils avaient fait l'exploit déjà là-bas de gagner. À l'Olympiakos, déjà c'était bien. Tu avais derrière 2 matchs à la maison pour essayer de conclure la série. Bah, ils en prennent 1-2. Derrière le 5e match, effectivement, ça pouvait être compliqué de.
Et ça passe
d'espérer.
Pas loin. Hein.
Ouais.
Et ça passe pas loin. Le niveau de jeu est impressionnant. Je ne sais pas si tu fais gaffe à l'arbitrage qui est je ne dirais pas laxiste parce que c'est volontaire, mais qui laisse vraiment jouer.
Ouais.
Et tu as un paquet de contact pas possible, ça joue, c'est beau, hein. Les Dantao, les mecs comme ça ils sont incroyables. Moi je suis moins fan de Mike James.
Ouais, alors il a fait quand même du cours alternatif toute la saison celui-là.
Mais bon, c'est vrai que quand il arrive à planter des trucs pas possibles, tu peux qu'applaudir. Donc bon, bravo à eux. Un peu triste pour nos deux ex Limougeaux.
Oui.
Léo qui a pas été au niveau quoi sur la série, qui a joué quand même mais qui est quand même en difficulté, et puis notre chouchou de l'an dernier.
Sur la défaite, c'est au match 3, c'est lui qui prend un des derniers shoots casse-croûte à la fin et qui le plante, non, je crois.
Oui, enfin, je sais plus si c'est le match 3, mais il y a un match où il rate un shoot très important. Et... Bon, il a atteint un peu son plafond de verre, là, avec tous ses pépins physiques, je pense que... Mais c'est pas déshonorant d'avoir du mal aux portes d'un Final Four de EuroLeague, hein. Parce qu'il y en a qui ont même pas du mal, c'est qu'ils ne jouent pas du tout. Alors que l'an dernier, c'était notre meilleur joueur, mais Jerry Boutsielé,
qui est là-bas, qui n'est pas sorti une fois à ses fesses du banc.
Qui traverse la saison comme une âme en peine et qui joue pas, jamais.
Alors la question c'est, t'es beau avoir un beau contrat bien payé, est-ce que à son âge, avec peut-être ses espérances de carrière, est-ce que t'es le bon choix?
Mais je crois qu'en termes de salaire, il n'a pas fait d'énormes plus-values. Enfin, c'est quasiment... Alors si je me base sur ce qui avait été publié, je crois, dans Basket... C'est Basket Europe, le site, qui fait ça régulièrement.
Ouais.
Il avait un très bon salaire, mais rien de fou par rapport à ce qu'il avait l'an dernier à Limoges, où il avait déjà un très gros salaire. Donc sa cote n'a pas pu augmenter cette année. Donc, je ne suis pas devin, je ne suis pas agent, je ne suis pas dans la tête de Jerry, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de tenter de le draguer un petit peu pour...
Un comeback.
Un comeback, il se fait la cerise et puis il repart après. Mais... Parce que là, il a été en contact de très bons joueurs, mais il n'a pas joué, quoi. Mmh. Ça fait mal.
J'ai pas regardé du tout si il avait joué
En
JP Elite.
Si, il fait quelques matchs de ci, de là. Même en Euroleague, ouais. Il a fait 7-8 matchs, quoi, ou peut-être un poil plus, mais...
Ouais.
Il sait même pas. Enfin, là, les 5-6 derniers matchs de Euroleague, je pense qu'il a pas joué une minute. Et le dernier match contre Le Mans, je l'ai pas vu jouer.
Écoute.
Il a pas la confiance du coach.
Il l'aurait eu chez nous. Voilà, fallait pas partir. Tant pis.
Tant pis pour lui.
Dans les autres anciens et dans les encore autres gros qui sont partis, on a Mam JT. Je voulais faire une petite parenthèse dessus parce que, contrairement à Jerry, on a eu la bonne surprise de voir que Mam avait été élu MVP Eurocup cette semaine.
C'est énorme. Hein.
C'est énorme. Avec des stats qui sont vraiment pas mal. Donc sur la saison, il fait 12,8 points, 7,5 rebonds, une passe, une demi-interception, 0,7 blocs.
Ils doivent être à 18 des Val, un truc comme ça, non?
Alors Pierre, c'est ça, c'est Val Pierre.
Ouais.
Ouais, donc il a 18 des Val de moyenne.
Il joue 22 minutes, je crois.
Alors ça, c'est pas indiqué dans les stats de sur le site de l'Eurocup.
J'ai cru voir ça, quoi. Il a une statistique d'Eval à les minutes qui est complètement édifiante.
Toc, toc, toc.
C'est le mec le plus rentable, quoi.
Alors, j'ai 21,59 minutes,
ouais. Ouais.
C'est ça.
18 d'Eval en 21 minutes, ouais, c'est pas mal.
Ouais.
Tu sens que le mec, il rentabilise. Alors, c'est grosse équipe, hein, Bologne. Hein. C'est les stars NBA, c'est Teodosic. On n'est pas loin du niveau Euroleague. Hein. Et ça fait d'autant plus mal de se dire que qu'il était là avec
nous.
Jerry, avec Samardo Samuels, avec Fréjus Zerbo en début de saison. On avait ses quatre pivots en une année.
Qu'on n'a pas fait jouer, qu'on a frustré, qui est parti encore par la petite porte.
On l'a lâché. Il y a des supporters qui ont fait un blocus ou je sais pas quoi, une pétition pour garder Samardo.
Ouais.
On voulait faire jouer Jerry en 4. Enfin, là, on a eu le nez creux, hein, cette année-là.
Ouais. Mais c'était avec notre ami Crane Pelé, non? C'était... Ouais.
Et puis, je ne sais même pas si ce n'est pas cette année-là qu'on a signé pour 5 ans ou 10 ans ou 25 ans, je ne sais plus, Timothée Basile.
Ouais.
Donc là, en poste 5, dès que tu disais « je suis poste 5 », on te signait à l'image. C'était parfait. Hein.
Parce qu'après nous, il a fait Turin, il a fait Avtodor Saratov, je ne sais pas où c'est.
Aussi.
Oui, bah, ouais. Gaziantep et
en Turquie.
Virtus Bologne.
Bah, il a été. C'est vrai qu'on lui a souvent reproché d'être des fois un peu soft.
Chez nous, oui.
Et il s'est confronté à des championnats un peu difficiles, à différents coachs. Et il s'est endurci, on lui a fait confiance parce que très jeune, il avait un potentiel énorme. Je ne sais pas si tu te souviens. On parlait de lui comme un potentiel très très haut drafté, quoi. Quand il avait 17-18 ans, qu'il était MVP de Pro B avec des stats mais hallucinantes. Et puis
à Nanterre, il avait un super profil, il jouait bien, enfin Donadieu le faisait bien jouer en plus, donc
ouais. Et puis je sais pas, la progression s'est un petit peu arrêtée, et bon, tant mieux pour lui, hein,
chez nous.
Et c'est j'ai l'impression que ça arrive souvent que des jeunes français, mais peut-être que dans d'autres pays d'ailleurs aussi c'est pareil, mais ont besoin de s'expatrier pour faire éclater un petit peu le talent, quoi. Même s'il avait déjà du talent, Moerman, quand il revient en France, c'est après quelques saisons en Espagne où c'était un peu compliqué. Je crois que c'était à Bilbao, et là, d'un seul coup,
après,
il éclate.
La première année n'était pas top. Enfin, la première partie de la première année.
La première partie n'est pas top, mais bon.
Par contre, il y avait l'engagement défensif, tout ça. Il a jamais rien lâché.
Il y a une progression qui est quand même assez dingue.
Clairement. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le autre que CSP?
Non, Indochine, on l'a dit. Ouais. Non, c'est bon. Ouais.
Bon, d'accord. Ben, on va passer alors du coup sur quelque chose qui intéressera certainement beaucoup plus les supporters du CSP qui nous écoutent. Même si je pense qu'il y en a qui apprécient qu'on parle des anciens de temps en temps. Depuis la dernière fois, ben, il n'y a pas eu grand-chose. On a eu un match qui était important pour espérer maintenir cette quatrième place dans la course au play-off avec les poursuivants que l'on avait à l'époque, qui étaient Strasbourg, qui étaient Dijon, Pau. Donc des matchs à pas perdre.
Et donc c'est vrai que bon, il y avait pas mal d'objectifs. C'était gagner, parce qu'on n'était pas qualifié à ce moment-là.
Non.
Rien ne disait qu'on allait l'être. On avait un goal average hyper favorable. Je crois que c'était plus 24 ou plus 25.
Alors je l'ai noté.
Je dirais 25 de mémoire.
Je l'ai noté. 25.82-57 qu'il y avait à la
période. Et donc c'est vrai qu'on les avait atomisés à l'aller. Un match incroyable. Comme on en a eu quelques-uns cette année. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu autant de raisons de se satisfaire d'aller à Beaublanc. Mais malgré tout, aller à Dijon, c'est jamais simple. Ils ont un meneur qui est un petit diable. Et voilà. Avec nos grands meneurs... qui ne sont pas des meneurs, c'était un peu l'enfer pour eux. Et donc du coup, à titre perso, moi, j'étais content je signais tout de suite si on me disait l'équipe va perdre de moins de 25 points. D'accord. Qu'on préserve ça. Je croyais pas trop à la victoire. Ils sont sur une bonne dynamique. Je trouve que c'est une équipe qui joue un peu mieux que nous maintenant. Ce serait pas choquant que ce soit eux qui finissent quatrième. Il est même possible, s'il y a un 4-5, que ce soit qu'on les joue en quart. Si,
ça ne me ferait pas rire.
Ce ne serait pas très rigolo parce que Holston...
Ça dit, rejouer par exemple Dijon, ça ne me ferait pas... Strasbourg, ça ne me ferait pas plus rire non plus.
Je préférais Strasbourg, moi.
Ah ouais ?
Ouais. Mais bon, je te dis ça, chacun a des plans. C'est des équipes qui sont quand même à la base mieux construites que la nôtre, avec des joueurs plus forts. Donc c'est déjà exceptionnel de pouvoir se poser la question, de savoir si on pourra jouer là. Le quatrième ou le sixième.
C'est ça.
Et donc, quand on a été là, quand on a été là-bas, moi, je m'attendais pas à une victoire. Quoi.
D'accord. Alors, moi, j'espérais quand même, en tout cas, dans les plans, je me disais, 4 matchs, il reste Dijon, why not. Paris, ils sont pas loin des relégables. Je pense que ça va être un match, surtout s'ils continuent à perdre ce qui s'est passé pour eux. Du reste, ça va être un match où ils vont tout donner pour pas être relégués. Donc ça va être compliqué. Derrière, Monaco et l'ASVEL. Monaco avait encore l'Euroleague. Donc on se disait, on sait jamais, sur un malentendu, ça se trouve, on pourrait tomber entre deux matchs d'Euroleague et qui s'en foutent un peu de nous. Non. Et puis, et en plus, le match de Monaco a été déplacé parce qu'au départ, ça devait être le cas. On devait jouer entre deux matchs d'Euroleague. Alors, je ne sais pas si c'est avec notre accord ou pas, si c'est à la demande de Monaco, très certainement, que le match a été déplacé pour leur laisser un peu plus de trucs. Alors après, sur le fond, laisser des chances à un club français en Euroleague, why not, hein,
ça se fait quand même.
Ça se fait. Nous, on était contents quand ça a été fait pour nous il y a quelques années. Donc après, sur le fond, ça me fait chier parce que ils vont être pleins de bourre.
Tu sais pas en quel état d'esprit ils seront. Notre ami Gala, je crois, assez rapidement... avait pronostiqué que les 4 derniers matchs de la saison...
C'était 4 défaites pour lui.
C'est 4 défaites, ouais. Il est assez pessimiste là-dessus.
Faut pas espérer, parce que si c'est le cas, on se retrouve 8. Tu prends l'ASVEL en premier. Comment dire ? Pour être champion, il faut gagner tout le monde. Donc de toute façon, c'est pas un problème.
Alors, est-ce qu'on joue... c'est triste à dire, mais est-ce qu'on joue le titre de champion ?
Ah, non. Ça me fait bien chier, mais non. Déjà qu'on joue les playoffs et qu'on joue une place pour être sûr d'avoir la FIBA basket toute pourrie l'année prochaine. Du reste, on en parlera tout à l'heure parce que Oui, on en parlera tout à l'heure de ça. Enfin, on ne s'aventure pas trop là-dessus. On ne perd pas de temps là-dessus. On en reparlera.
On se concentre sur Dijon.
Ouais. Alors, du coup, j'ai essayé de faire un petit résumé comme le gros, mais j'aurais beaucoup, beaucoup moins d'aisance que lui. Il est affûté là-dessus. Tel un beau diable.
Alors, c'est un gros affûté. Hein.
C'est ça. Donc, les 5 de départ pour nous, un 5, ben, j'aurais tendance à dire maintenant, qui commence à être habituel. Creusol, Harper, Lang, Invernizzi, Pommier. Très très vite, on commence à prendre l'eau. On voit qu'à 8 minutes, il y a quasiment 17-6. À 5 minutes dans le premier, il y a 21-10. On a joué en défense de zone assez longtemps et on s'est fait bombarder de 3 points avec leur ricain.
Avec David Olson qui s'est amusé et puis Carrington qui a fait
voilà,
pareil.
C'est celui-là que je cherchais, merci, je n'arrivais pas à retrouver mes notes. Et Carrington qui se sont amusés, qui ont artillé à 3 points, ça nous a fait un mal de chien. Dans le premier, toujours un petit mieux comme d'hab, et on en avait dit la dernière fois déjà, comme Astimber, Grant, on respire un peu et on retrouve un peu de jeu et un peu de rebond. On développera après. Dans le deuxième, la défense donc, monte un petit peu avec des bons passages de Pickens et Spencer. Côté Dijonais, il y a toujours Alston qui nous fait l'amour tout le temps. On recolle à moins 7, puis après, avec deux petits coups de génie de Endoy et CG, on revient à moins 1, avec des temps morts pris de côté Dijonais. Carrington nous remet à 8 points sans trop de problèmes. Après la mi-temps, 3 et 4, que dire. Je pense qu'on peut ne pas citer Harper, déjà pour commencer, c'est un match pour lui qui a oublié sur cette soirée. Endoy qui pour moi avait fait un ou deux matchs moyens plus sa blessure qui a fait un match plutôt intéressant en tout cas où on a vu qu'il a été concerné par l'aspect rebond offensif où il a pris deux ou trois rebonds offensifs et surtout qu'il les reconcrétise derrière. Ce qu'on peut conserver, c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on remarquait, merci, c'est qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, pas perdu le point à virage. Donc à l'aller, il y avait 82-57, donc 25 points. Donc on peut se contenter de ça, on va dire. Voilà, moi ce match-là, mis à part le retour à moins 4 et moins 1. Quand tu regardes, j'ai fait un petit exercice toutes les 5 minutes au match. Il y a entre moins 12 et moins 9, moins 13 tout le long.
Dijon gère, honnêtement.
Donc l'éclat qu'on se prend en premier, on le traîne tout le long. On a réussi à le recombler une fois. Ils ont accéléré un peu, ils nous ont remis 8 points. Pas un match difficile pour eux. Pour nous, un match à oublier. Avec défense de zone, défense de 3, certainement trop longue. Encore une fois, pour moi, peut-être un 5 à revoir parce que ça fait plusieurs fois qu'on se reprend des éclats d'entrée, qu'on court après le score.
Mais tu penses qu'il faudrait mieux mettre CJ direct à
d'entrée.
La place de Timothée ?
Bah oui.
Sur les 2-3 derniers matchs avec Timothée, là, il est.
Ça fait.
C'est assez flagrant.
Ou 2-3 ouais. Derniers matchs où on court après le score. Il y a des fois, ça s'est mieux fini, mais là. Et puis là, ils nous ont éclatés, ils ont été meilleurs en passe, en jeu de passe, en backdoor, dessous, il y avait des communications avec des petits au gros dessous, c'était beau quoi. Ça bien
ouais, ils ont géré, enfin, ouais, honnêtement, ils étaient au-dessus de nous à tous les niveaux. Je pense qu'ils avaient.
Ça se voit à l'éval, hein, quand tu regardes l'éval collective, à 124 à 91.
124, c'est que ça a joué.
Ils nous font 12 interceptions. On perd, nous, tout seuls, 15 ballons. Bon.
C'est notre péché mignon, ça.
Ouais, souvent, ouais. Ouais. Et ce qu'on peut noter, c'est que Noriquin, leader, meneur de score, tout ça, c'est encore un match sans. Harper a 8 points. Il fait 6 passes, quand même. Bon, voilà.
Il perd 5 ballons, quoi. Mm. Encore une fois, il prend pas soin du ballon.
Ben non,
il n'arrive pas,
c'est pas un meneur. On va le redire à chaque émission, c'est pas un meneur. Massingburg, 10 points. Lang a été long à démarrer, mais finit à 17. Bon, une fois que tu es sorti de ça.
Les deux bonnes surprises, c'est Endoy et Pinkins qui ont.
Ouais, c'est ça.
Qu'on n'attendait pas. Bon, c'est, ouais, je pense que c'est le seul truc à retenir de ce match. Pour moi, l'équipe, elle était en fin de cycle. Là, toi, on le sentait depuis 2-3 matchs déjà contre Chalon. On était ric-rac contre le dernier du classement. Ouais. On gagne sur un.
Un truc alléluia. Ouais.
J'allais dire vol, mais on va dire alléluia. Tant mieux, on en profite, mais bon, ça faisait 2-3 matchs contre Le Mans qui était décimé, ça passe à pas grand-chose. Fos, c'était hyper compliqué. Là, l'équipe, elle était crevée. C'est pour ça que je disais que c'était pas mal, finalement, ce break. Un peu comme on a eu un break quand on devait jouer pour Orthez et qu'on n'a pas pu les jouer, que le match a été décalé. Alors qu'on était en pleine spirale, ça fait une respiration et quand on les a rejoués, c'est là où le club le souffle est revenu. Alors, je ne sais pas si en 10 jours, ça va réussir à régénérer tout le monde, mais j'ai bon espoir qu'on reparte sur un autre truc. Quoi. Là, ils étaient en bout. Toi, c'est, très vite, tu te doutes que le match, on n'allait pas le gagner. Quoi.
Oui.
Il y a eu un run en deuxième mi-temps, là, en deuxième quart-temps. Mais...
Oui, comme je suis quand ils reviennent à 4 et à 1 point.
Mais dès qu'il y a ce run de 11-0, ils nous en remettent un autre derrière et ils reprennent 15 points. Enfin,
c'est ça.
Tu vois l'équipe qui gère, bon, ils reviennent, bon, ok, accélérateur, bon, allez, salut, on regarde dans le rétro et on fait la distance de sécurité. Bon.
On a fait ça en début de saison. On a fait ça, on a maîtrisé des
on
matchs.
On pouvait
comme
le faire. Enfin, contre Dijon, on n'était pas en capacité, c'est eux qui l'ont fait. C'est une bonne équipe. Après, c'est vraiment pas honteux de perdre là-bas. Comme tu disais, c'est avec les choix défensifs de Massimo.
Bah là, je sais pas, quasiment.
Mais ils finissent à 14 sur 28 à 3 points, les autres. Hein. Donc cette zone elle était pas quand même hyper cool.
Bah, alors il en use souvent, on l'a déjà dit ça. Hein. Par contre au début de l'année il alternait. Il y avait de l'homme à homme, il y avait de la boîte, il y avait de la 2-3, il y avait de ça a changé tout le temps. Et là c'est de la zone et on se fait artiller dessus et ça change pas. C'est compliqué. Surtout avec des petits meneurs qui cavalent, ou nos grands, ils ont peut-être du mal à les suivre. Et puis les deux satellites qui doivent courir le long de la ligne de 3 points, ils se crèvent en 3 minutes.
Holston, là-dessus, il se régale. Ah bah... il lit la défense très facilement. Je pense qu'avec des joueurs un peu en jambes, un bon Cruzoal bien en forme en indive, Holston, il est beaucoup plus emmerdé. Mais là, il a lu le truc, il a fait ce qu'il voulait. Mais super joueur, hein, vraiment. C'est un plaisir à regarder. Hein. Ils ont du bol de l'avoir. Ça fait je sais pas combien de saisons qui leur sauve chaque saison. On disait le Neam, il est super fort, mais non. Ce qui est très fort, c'est. Enfin, on voit ce qu'il fait avec Bourg cette année. Les joueurs font quand même le jeu. Hein. Et donc bon. Bravo
bon
à eux.
Le technicien est meilleur avec des bons. Des bons joueurs, c'est sûr.
Et Markovic, je sais pas si c'est un bon coach. Markovic, je m'en rends pas compte. Je sais pas si tu as laissé un souvenir particulier quand il était joueur au CSP.
Non.
Il était bon. Voilà, c'était. Parce qu'on n'avait pas le droit à beaucoup d'étrangers à cette époque-là. Donc quand on faisait venir un étranger, c'est qu'il était quand même plutôt réputé. Et moi, j'ai toujours été un peu sur ma faim. Toi, c'était. Il était bon, mais je l'ai jamais trouvé top. Enfin, après, c'est vrai qu'on a eu tellement de très très forts joueurs. C'était pas Yuris Dodge, évidemment. C'était pas tout à fait le même poste. Mais... Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous allez sur Facebook et vous nous insultez.
Ça peut.
Et on dira que vous avez tort.
Pour le moment, ça réagit pas trop, c'est bon.
Ça va ?
Ouais.
De toute façon, on a nos avocats sur le coup, donc s'il y a un problème, vous avez intérêt à être sévèrement armé. Hein. Bref, on a gagné, on a gardé le point TVRH, et finalement, c'était un moindre mal.
Ouais, alors est-ce que ça va nous servir à quelque chose sur la fin de match, sur
fin de saison, saison
pour le moment, au classement, par rapport à Dijon, ils ont... aujourd'hui, ils ont un match de jouer de plus que nous.
Ils sont à 33 ?
Ils sont à 32.
Ah non, mais non, il nous reste 3, pardon. Attends.
Et nous, on est à 31. Ouais. Ils ont un match de jeu et donc une défaite de plus que nous. Donc, mettons... sans être pessimiste, on peut dire que l'exploit à Monaco et Paris et l'Asvel, on peut oublier.
Faut essayer de tabler sur 1 sur 3. Hein.
Ouais. En espérant que ça soit ce soir. Hein.
Ce sera ça. J'annonce, on gagne.
Eh ben, allez, vendu. Moi, j'achète. Et après une surprise, on fait du pile ou face. On essaye d'en prendre un sur les deux qui restent. mais j'y crois pas non plus.
Mais le truc cool, c'est qu'il va y avoir du monde.
Oui. Ah bah c'est plein.
Ils vendent les places debout pour Monaco depuis aujourd'hui.
D'accord. Moi, je pense que Monaco et l'ASVEL, vont se disputer la première place jusqu'à la fin. Pour le moment, Villeurbanne a 32 matchs joués, 24 victoires. Monaco, 31 matchs joués, 23 victoires. Donc du coup, avec le match en retard, mettons que Monaco gagne, il serait à égalité. Par rapport au point de tavérage direct, j'ai l'impression que
c'est l'ASVEL qui
est devant. Oui, ouais, tout à fait. C'est l'ASVEL qui est devant. Donc ça va jouer aux victoires. Donc je pense que Monaco va s'arracher pour taper les trois qui leur restent. Et l'ASVEL aussi, ça va être, je pense, une bataille de titans. Et l'emmerdant, c'est qu'on joue les deux, nous.
Cholet aussi. C'est marrant.
Ouais.
C'est étonnant ce calendrier. À la fin de saison, j'ai l'impression que tous les gros se rencontrent. Est-ce que je peux juste dire un mot encore sur un autre joueur de Dijon que j'adore? Un mec que je trouve incroyable, c'est Jacques Alinguet.
Oui.
Le mec que tu vois pas dans le rayon point, parce qu'il finit quoi? Il prend deux shoots, le mec.
4 points, ouais.
Et il finit à 21 déval parce qu'il fait 9 rebonds, 4 passes, 3 contres, 3 interceptions. Et il n'a pas eu de chance dans sa carrière parce qu'il a été deux fois blessé très gravement. Et ça l'a freiné, mais de dingue. Alors que dans un collectif, un mec comme ça, si demain tu le dis qu'il signe à Limoges, mais je suis le plus heureux, c'est. Parce que tu sais qu'il va bonifier l'ensemble.
De devoir, ouais.
Il va faire tout ce dont tu as besoin. C'est une scène de je sais pas moi, de Green aux Warriors, un mec qui est là pour boucher les trous. Et ce match-là, toi, tu l'as pas vu, mais sur chaque action, il était déterminant. Et...
C'est un peu ce qu'on disait de Pommier l'année dernière, qu'il était là pour booster, pour faire le travail de l'ombre, pour faire le sale boulot de défense et tout. Mais je pense avec un moindre talent quand même.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse.
Alinguet, ils ont un super meneur, un pivot qui fait le taf. Ouais, ouais. C'est toujours pareil. Hein. Bah, c'est pas de secret.
Ouais, un 5.
Et pourquoi Cholet est complètement revitalisé? Bah, ils ont changé leur axe 1-5 en milieu de saison.
Et nous, non.
Bah, nous, on n'a pas de 1, on a que des 2. Enfin, bon, on arrête, hein, parce qu'on parle de ça tout le temps.
Donc, pour poursuivre, donc, parce que bon, Dijon, je pense qu'on a fait le tour de la défaite. On peut redonner vite fait le score final pour nous faire mal, 100 à 84. Un match à oublier. Où, on peut même pas dire qu'on a travaillé des trucs, on peut même pas dire où on a des bonnes surprises. Franchement, match à oublier pour moi.
Ouais, bon, il y a un ou deux remplaçants qui ont perdu. Enfin, Endoy, qui était quand même un peu.
Oui.
Il s'est fait un peu la cerise, parce qu'il était quand même dans le creux de la vague.
Oui, tout à fait.
Bon, tant mieux. Pinkins, qui montre qu'il est capable de faire des choses parfois intéressantes. J'ai du mal à me faire un avis vraiment sur ce joueur, parce qu'il n'est pas toujours très académique. C'est quand il part de haut panier et qu'il finit en fadeaway en arrière avec un bras un peu désarticulé, il va choper toujours la faute. Il est un peu présent en rebond, il peut mettre des 3 points.
Alors moi je suis mitigé parce qu'en première partie de saison, les rares fois on le voyait, c'était dans le garbage time ou quand le match était plié, c'est là où il faisait ses points.
C'est vrai.
Là effectivement depuis quelques temps il sort des prestats intéressantes, ça fait 2-3 fois qu'on le cite comme trop fausse. Du reste il avait fait un bon passage aussi. Est-ce qu'il se réveille en fin d'année? Merde, fait chier, c'est un gros diesel celui-là, parce qu'au bout d'un moment, non, vraiment pas convaincu par le joueur. Après, bon, s'il peut continuer sa progression et ou son investissement pendant les playoffs et que ça peut nous amener des choses, tant mieux pour nous. Après, de là à dire que je voudrais le revoir signer l'année prochaine, pas sûr.
Pas plus que ça. Après, je pense qu'il doit rien coûter. Hein.
Ah bah, il vient des deux italiennes, je pense que. J'espère qu'effectivement on l'a pas signé comme Timothée.
Espérons-le, ouais. Bon bref, il reste donc 3 matchs. Toi, ton hypothèse sur ces 3 matchs, avant d'en parler de. Moi, je te dis, allez, minimum 1 sur 3 et peut-être une surprise. Et 1 sur 3, ce sera ce soir.
Oui.
Et je sais pas, je sens une petite surprise à la maison. À l'ASVEL, je pouvais bien les battre.
Eh bien, j'aurais dit comme toi.
Alors, je te dis parce ça parce que ça me
Monaco,
fait vraiment plaisir.
Monaco, Plainbourg, sortant sortant de l'Olympiakos avec un niveau de taré, je pense qu'ils vont nous mettre une misère sans nom, même s'ils vont forcément y avoir un relâchement après la pression, la déception, le machin. Mais je pense que du coup, ils vont se dire on a quelque chose à aller chercher, surtout que ben, le titre, ils ne l'ont jamais eu, je crois encore.
Non.
Contrairement à l'Asvel qu'il a eu l'année dernière, enfoiré. Donc je pense que Monaco va être motivé. Alors, c'est ça où c'est dur à juger. C'est soit ils sont un peu tristes d'être sortis parce qu'en disant qu'on n'est passé pas loin. Et puis la fin de match qu'ils ont eu quand même à l'Olympiakos avec les ultras au bord du terrain, même sur le terrain, avec la poignée de pile dans la main et les fumis, et ils ne voyaient plus rien. Je pense que ça doit te faire réfléchir 2-3 minutes.
Alors par contre, c'est une fois qu'ils ont vécu ça, Beaublanc, c'est sympa, ça siffle un peu. Mais...
Ouais, voilà, ouais, je pense qu'effectivement, ce n'est pas les Phoenix qui vont les faire trembler.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment beaucoup les déstabiliser, si ce n'est...
Non.
À beaucoup applaudir Léo Westermann et qu'il pleure tout le match et qu'il ne puisse plus rien voir en dribblant tellement il pleure. Mais non, on va pas leur faire peur.
Non, ouais, je pense que là, ouais, niveau... ouais. Oui, et c'est à souligner que là, on ne pourra jamais rivaliser avec les tarés grecs. Effectivement. Ouais, donc, sur les 3 matchs qui restent, comme toi, victoire obligatoire pour moi ce soir. Et derrière, franchement, Monaco, j'y crois pas parce qu'ils veulent aller chercher le titre. Et je pense qu'ils veulent se placer dans les meilleures positions et du coup finir premier du championnat pour choper le 8e et en avant Guingamp et dérouler jusqu'à la fin, même s'il faut taper tout le monde. Et l'Asvel, on l'a déjà fait, donc why not? Écoute, why not? Et puis ça me ferait bien plaisir de taper l'équipe Atipi.
Oh là là, oui, s'il te plaît. Si on pouvait le faire.
Moi, ça pourrait. Ouais.
Qu'est-ce que je les aime
demi
pas,
molle, poil, ouais. Ah. Donc ouais. Donc l'équipe de ce soir, Paris, parlons-en un petit peu. Donc normalement sur le papier, c'était censé être futur grand de la Jeep Elite, Uber Elite, ce que tu veux, Jeep machin. Le promu a eu du mal. Ils ont eu effectivement pas mal de déboires avec leurs joueurs cette année, principalement avec leur gros 5 là qui est parti.
Gros CV, gros salaire et puis gros caractère surtout quoi.
21 millions de dollars
de gains en carrière.
Ouais.
Ouais, c'est possible. Bah, New York Knicks, il a dû gagner pas mal. Après, je me rappelle son match qu'il avait fait à Beaublanc, qui était un match.
Il était risible. Il shootait à 3 points.
Il en avait rien à foutre, en fait.
Alors, oui.
Après, il y a du talent. Donc, de temps en temps, les mecs qui en ont rien à foutre avec un peu de talent, ils sont capables de mettre un panier ou prendre un rebond. Mais c'était une plaie dans le collectif. Et je pense qu'ils ont bien fait de s'en séparer.
Ouais.
Bon, ça n'empêche pas que...
Donc, après, sinon, le roster... il n'y a pas... Alors, mis à part Amarassi, je ne vois pas grand monde à... qui me tape plus que ça dans l'œil.
Moi, celui dont je suis fan, c'est leur meneur Bégarin.
Ouais.
Qui a un vraiment gros potentiel draftable. Après, il était blessé, il ne devait pas revenir, il joue la fin de saison.
Jeune de 19 ans, poste 2.
Lui franchement, c'est une des perles du championnat.
45e choix à la draft NBA par Boston.
Donc drafté. Toi, et donc à 19 ans, il est déjà drafté. Et non, il avait fait un super match à aller chez nous. Il est très grand, grosse adresse. Il a fait quelques matchs à 30 points il y a quelques temps. Il s'est blessé. Il ne devait pas revenir. Bon, on va. Si lui, il n'est pas. Si c'est pas fait la cerise, franchement, ça va être compliqué.
Ouais.
Je ne sais pas si Toupane joue ce soir.
Pas vu.
Parce que lui, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué.
J'ai pas vu.
Bégarin n'est pas dans le truc et que Toupane. Parce qu'il y a Kamagaté aussi, leur gros pivot là, qui met des.
Ismaël Kamagaté, 2m11.
Qui met des comptes de partout, des dunks, qui va bouger un petit peu Spencer.
Ah ben là, je pense que dans la domination de la raquette, ça va être vite vu. Nous, on culmine, je pense, à 2m5, comme ça.
Ouais, 5-6 le max. C'est vrai qu'on n'a pas de.
2m11, 20 ans. Il doit. Bon, après, les gros, ils sont toujours meilleurs techniquement et autres, avec un peu d'âge, un peu d'expérience. Mais bon, là, la taille va parler pour lui quand même.
Ouais, mais bon, ils sont pas très en forme tous. Donc, bon, C'est pas une équipe hyper impressionnante. Après, c'est le, bah non, c'est le jubilé d'Amarassi ce soir.
C'est vrai ?
Ouais. Enfin, c'est jubilé, c'est. Donc, il arrête sa carrière à la fin de saison. Donc, c'est peut-être le dernier match qu'il joue à domicile. Donc, ils vont jouer pour lui. Alors, je sais pas dans quelle atmosphère ça va les mettre.
Je sais pas.
Parce qu'Amarassi, bon, lui, il est au bout du rouleau. Hein. C'est,
Puis ça fait quelques temps.
Mais bon, ils vont vouloir faire plaisir. Lui, il a dû se réserver pour ce match-là. Donc,
40 ans.
Oh là là, et je l'aime pas ce mec en plus.
Ah bah moi je l'ai jamais trop aimé non plus. Mais bon.
Alors si c'est un ancien de l'ASVEL là qui nous la met.
Mais non. Non mais là faut. La logique du classement va être respectée. C'est ce qu'il faut se dire, même avec un tir volé à la fin, à la 0,5 dernière seconde.
Oh, on prend.
On prend. Ouais, donc du coup, ben. Ouais, donc là-dessus, il faut voir Paris, le match, on verra bien.
Alors, je ne sais pas s'il y aura de l'ambiance, mais je sais qu'il y a, des supporters limougeaux qui... Il y a un club de supporters qui est présent à Paris, qui fait souvent les déplacements. Et alors, on compte sur eux pour les entendre.
Je
et...
pensais que tu parlais de l'ambiance à Paris par les Parisiens. Non, bah, non, il n'y en a jamais.
Ça dépend, parce qu'à la rigueur, ce club, il a plus d'ambiance que les Metropolitans, qui n'ont aucun fan. À force de déménager, de passer de Levallois à Boulogne à machin, on ne sait plus tout qui ils sont.
Il n'y a plus d'âme déjà. Là, ils ne sont pas en train de se faire virer de là où ils étaient en plus.
Si, non, si, mais c'est Levallois. Ils se sont fait virer de Levallois et puis le projet de salle à Boulogne, finalement, ça a l'air de...
Oui, mais bon, ça c'est extra sportif. Est-ce que ça va impacter les joueurs ?
Non, ça ne les impacte pas, mais ça impacte, enfin, ça aide pas à fidéliser un public qui s'identifie à machin. Mm. Nanterre, mine de rien, c'est pas un public de dingue, mais il y a quand même un public qui commence à être un peu connaisseur, qui a vu des titres, qui suit le truc. Paris, il y a une tentative de quelque chose, un peu à l'américaine. Ils font le taf, j'ai l'impression, un peu mieux que les Metropolitans. Bon, ce ne sera pas à l'Olympiakos.
Je pense que eux, s'ils se maintiennent avec le projet qu'ils ont, avec la salle qu'ils doivent avoir,
et avec les
budgets qui peuvent arriver, je pense que... alors, ils n'iront peut-être pas Titi et Monaco et les budgets faramineux qui sont en train de se profiler, mais je pense qu'ils vont être chiants incessamment sous peu s'ils se maintiennent. Et, en tout cas, à court ou longue échéance, en tout cas, ils vont nous casser les roupettes et nous prendre notre place à nous.
Non, parce que, rappelle-toi la déclaration de notre président Martinez, on va bientôt doubler la masse salariale.
Il a dit ça il y a 2 ans.
Ouais, mais on va le faire. C'est que ça doit arriver. S'il l'a dit.
Bah écoute.
Donc c'est peut-être la semaine prochaine qu'on va doubler.
Faut commencer à regarder sous les crottes des cheveux des vaches limousines. On sait jamais. Au pied d'un arc-en-ciel, faut regarder si on trouve un truc comme ça qui.
Mais ouais, ce serait embêtant là que tous les clubs nous passent devant là.
Bah ça commence parce que avec tous ceux qui commencent à avoir des arénas, les trucs, les projets entre les Pau, les ASVEL, les Monaco. Les Parigots, ça commence à en faire un paquet. Les Strasbourg qui commencent à avoir qui ont un projet de salle.
Des petits, entre guillemets, comme Bourg qui montent des trucs assez sérieux, même si cette année ils sont un peu morflés.
Moi, ce qui me fait chier à Bourg, et je crois qu'on l'a déjà dit, c'est on avait Sarr.
Ben oui.
On l'avait, mais le manager technique, on l'avait chez nous. Il a demandé non, moi j'en ai marre d'entraîner, je veux passer GM.
Fred à l'époque.
Ah oui, mais non. Ah oui, ben voilà. Mais...
Et c'est embêtant, c'est que les Limougeaux, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu du basket. Mais Edouard Choquet, sauf il n'a pas beaucoup joué avec le CSP, je pense. Peut-être dans les équipes jeunes. Sarr, il a fait quoi? Une saison où il remonte en Pro A et après il se casse. Mm. Et puis voilà quoi. Alors, s'il y a Alain Clou là, qui revient, pour un général manager, ouais. Mais.
Après, il faut voir effectivement avec la nouvelle équipe dirigeante ce qui va être mis en place, etc.
Qui a le mérite d'être très discrète. Au moins, on sait qu'ils travaillent dans l'ombre. Alors ça, on sait qu'ils ont vraiment cette qualité. Soit ils ne travaillent pas, et auquel cas, ce n'est pas bien. Soit ils travaillent, ils sont vraiment hyper discrets.
C'est vraiment, obligé qu'ils travaillent. C'est obligé qu'ils travaillent. En tout cas, il faut espérer parce que les GFL, ça fait 1 ou 2 mois qu'il faut les re-signer, les prolonger, les machins.
Mais ils ont intérêt, ouais, parce que là...
Il y en a 1 ou 2 que je garderai bien. Il y en a un paquet que je verrai bien. Mais ça, bon, on fera ça au bilan de la fin de l'année.
C'est enfin, à la fin de la foire.
Qu'on compte les bouses, exact. le match d'après, donc, nos amis Parigots, on a Monaco.
Chez nous, ce week-end.
chez nous ce week-end samedi.
Je viens de voir que le club a fait une publication tout à l'heure sur les réseaux qu'ils viennent de mettre en vente les places debout.
Yes.
Donc c'est toujours bon signe, ça veut dire que les places assises sont quasiment toutes vendues ou il doit en rester 10 qui sont éparpillées dans la salle.
Ça veut
donc,
dire qu'on va avoir chaud.
C'est-à-dire qu'on va avoir chaud, c'est-à-dire qu'il y aura un peu de monde. Donc c'est les atmosphères où il peut se passer quelque chose un petit peu, j'espère.
On va avoir très chaud. Donc là, que dire de Monaco ? Ben, comme on l'a déjà dit là, au début de l'émission, c'est une équipe machine de guerre, avec des joueurs à tous les postes, doublés partout, avec des super joueurs que moi j'aimerais bien chez moi.
Mais qui joueront peut-être pas, hein, parce que je ne serais pas étonné qu'il y en ait plusieurs qui soient économisés jusqu'au play-off. Toi, Mike James, il n'a pas joué à Monaco l'autre jour. Mmh. Il ne joue pas tous les matchs en GP Elite, Mike James. J'ai l'impression que... Ça se trouve, il est parti faire la fête avec Kevin Durant. Mmh.
C'est possible. T'as vu le... Parenthèse, le truc comme quoi il avait jamais vu un truc cataclysmique comme ça, pépère.
Ah, je pense que cela fait bizarre. En plus,
ah bah, il c'est était... sûr que quand tu sors des mascottes qui vont dans les tribunes et qui.
Du clap sur Rihanna, là, d'un seul
et
coup,
les, et tu tombes et sur les des. Les scams et les machins, effectivement, ça doit lui faire bizarre quand.
Je pense, alors, Olympiakos c'est top, mais je pense que les plus fous, c'est Partizan de Belgrade.
C'est possible.
Et là, ça aurait été rigolo, il aurait franchi encore une étape de plus. Mais bon, oui, ça doit faire bizarre. En plus, ils l'ont présenté comme un supporter de Monaco et à un moment, il le filme, il se fait huer par toute la salle. Et quand t'es sur un terrain que tu connais pas trop, le pays, les mœurs, les machins, je sais pas s'il s'est
senti... Est-ce que je vais ressortir vivant ou pas ? Non, mais surtout, enfin bon, à la fin de match où ils rentrent à 8 secondes de la fin, ils rentrent tous dessus avec les fumées et tout.
Mais ils s'en foutent, ils vont se faire annuler le match Alors là, c'est l'erreur de. Enfin, l'erreur, je sais pas. C'est qu'il restait 20 secondes ou un tout petit peu moins.
8, je crois.
Non, mais avant, quand l'Olympiakos récupère la balle, il reste un peu moins de 20 secondes et l'écart est fait. Et Monaco décide de ne pas faire faute. Et donc, l'Olympiakos garde la balle sous le ballon sous le bras. Le chrono défile. Et à 8-7, paf, les gens commencent à envahir parce qu'ils ont vu que le match était fini et personne n'avait l'intention de continuer à jouer ou faire faute. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu d'envahissement de terrain si. Si Monaco avait tenté de jouer le truc, des lancers francs, des machins. Mais en décidant d'arrêter, là, paf, tout le monde arrive. Et...
Oh. Du reste, ils n'ont pas rejoué. Hein, quoi. La remise en jeu de Monaco pour eux, ils ont mis ouais, non, on ne va pas bouger parce qu'ils sont encore à un mètre de moi. Là,
mais tu as vu les joueurs, ils faisaient des signes. Non, tu fais rien.
Tu ne bouges pas, on va se faire égorger.
La sortie est là-bas, on fonce.
Non, bisous, on arrive. Non, tu ne bouges pas. Bouge pas. Moi, je ne bouge pas, tranquille. Ouais.
Enfin, quand ils vont voir les Phoenix qui vont faire trois coups de boum-boum, là.
Bah, écoute, on verra bien. Ouais, donc du coup, Monaco samedi à la maison, c'est pas fait, c'est pas gagné. Westerman, Lee, Demahi Balou, Andžušić, Gray, Ouattara.
Gray qui joue pas, qui était MVP de Rock Cup l'an dernier ou du Final Four.
Traoré, Diallo, Motum, Thomas. Moti
Younas.
Je te laisse, merci de le dire. Han Hall, Boutsiel. J'espère qu'il va jouer chez nous un petit peu.
Ouais, ce serait beau quoi, qu'il rentre, qu'on l'applaudisse, qu'il fasse un airball et puis. Voilà.
C'est ça. Fulfay James.
Ouais, là c'est très gros. Hein. Paris Lee, il est génial ce meneur. Oh. Il a une trajectoire de carrière l'an dernier quand il est à Orléans, là, je me doutais pas qu'il était en capacité
d'aller à Monaco
et d'être
je crois
jouer.
Qu'on l'avait dragué, hein.
Mais je crois qu'on avait essayé, ouais.
Il me semble qu'on l'avait dragué celui-là.
Après, je pense qu'il a fait le bon choix entre nous.
Ah bon,
d'un point de vue géographique, d'un point de vue salaire et d'un point de vue sportif, je pense que c'est pas mal. Mais là, c'est sa sortie. Enfin bon, on va pas parler que de Monaco. Mais sa sortie l'autre jour en cinquième match pour cinq fautes, ça a déstabilisé l'équipe. Donc, lui, il va être dur à tenir, ouais. Bon, enfin, c'est au-dessus de nous à tous les postes. Hein.
Bah, même je pense que les doublures des postes sont au-dessus des nôtres. Donc,
Mais leur troisième pivot, Jerry, est supérieur à. Oui. Gray, qui était le meilleur joueur de Eurocup ou un des meilleurs joueurs de Eurocup l'an dernier, joue pas.
C'est un choix de carrière.
Ouais. Donc bon, C'est le genre de match que tu peux gagner que si on est à 110 et qu'eux, ils sont à 50.
C'est ça. Et clairement, Monaco, je pense vraiment qu'ils vont jouer la première place pour essayer d'aller chercher un titre qu'ils n'ont toujours pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc après, bon, on verra.
Alors moi, je le vois qu'ils se reposent jusqu'au play-off en laissant tomber première, deuxième ou troisième. Et pour arriver en play-off à fond la caisse.
Tu crois avec les postes doublés, voire certains triplés, tu crois qu'ils vont se faire chier à...
En laissant ouais, James ou Danta Hall ou je sais pas, les gros joueurs se reposer. Par contre, à dire à certains joueurs, Westerman et tout, tu assumes ton statut et tu joues à fond. Quoi,
Ça peut.
On t'a pris, tu montres que tu es capable d'être meilleur que le meneur de Bourg-en-Bresse ou je sais pas qui. Quoi.
Alors,
et puis le dernier match, bah, c'est l'ASVEL.
Donc, l'ASVEL. Donc, pareil, bah, l'effectif. Alors, moins impressionnant sur le papier, mais qui reste quand même sympa. Donc, Chris Jones, Strazel, Dio, Wisnou, Okobo, Lacombe, Lightly, Kaudi, que j'aime pas, Ndoye, William Howard, Wembanyama. Il n'a pas été drafté ou un truc comme ça, lui, récemment?
Ben, Wembanyama, c'est même pas ça, c'est qu'il doit se présenter à la draft 2023.
En tant que numéro 1.
Et tout le monde dit qu'il sera numéro 1.
Numéro 1, c'est ça. Ouais,
et les mecs, les scouts, disent que c'est le plus gros prospect depuis 15 ou 20 ans mondial. Ils ont un mec de 2m20 qui dribble comme Kevin Durant, qui shoot à 3 points comme James Harden, et ils disent qu'il protège le cercle mieux que Rudy Gobert. Alors après, il a un physique un peu particulier, hein. Ça c'est le risque de ces joueurs-là, mais il fait saliver tout le monde. Donc lui, c'est cool en même temps pour nous de le voir jouer.
Oui.
Parce que dans 10 ans, ton fiston, quand tu lui montreras des images, bah, tu diras lui...
Oui, tu l'as vu jouer.
Tu l'as vu jouer, là, le mec qui vient de mettre 30 points NBA avec le triple-double et le titre NBA. Bon, bah, ce que je lui souhaite, peut-être qu'il n'aura pas cette carrière-là, mais... Faut aussi profiter de ces moments-là où on voit passer des putains de joueurs.
Après, il est ultra jeune, il lui manque un peu 20 kilos, mais bon, ça, quand il arrivera en Euroleague...
Ça, l'NBA, ils savent faire.
Ils vont les prendre, ouais. C'est ça, c'est
ils clair. Ont 14 nutritionnistes, 3 mecs à la gym, et donc il va les prendre comme il faut.
Ouais.
Et donc, ouais, non, profitons-en de voir des mecs comme ça, profitons de siffler Kaudi, qui est une raclure de cabinet, ce mec.
Je l'aime pas, une pleureuse de première.
Ah non, ça la joue dur, et puis dès qu'il y a un truc, c'est elle le premier à pleurer.
Si on a la chance d'avoir Bissang, je peux dire, alors là, il va obtenir 612 fautes. On est tranquille.
Ah, ils sont potes, ouais, en plus.
Ah bah oui. Donc ensuite, Morgan, Ostevski, Antetokounmpo et Foll. Tout ça coaché par le frère du président. Impeccable.
Le futur coach NBA. Ah non, pardon. Non, lui, il a eu une Rolls-Royce, il n'a pas su s'en servir.
Ça fait 2-3 ans qu'il a des équipes pas trop mal. Alors, pas su s'en servir. Il finit premier du championnat de France. Bon, il a pas fait ce qu'il fallait
en Europe. On aurait dit que c'était ridicule.
Oui. Bah, oui. Peut-être que l'année prochaine, il fera mieux.
Ouais. Bah, a priori, il a la confiance du patron. Tant mieux pour lui, mais... Ouais. Bon, si on devait en taper, si on devait gagner qu'un match, évidemment, je coche l'ASVEL et je m'en fous de ce soir. Mais par sécurité. Ah comment?
Ah bah non. Il faut taper l'Hyperigo quand même, et puis après, un des deux.
Ah ouais, mais si on peut en taper deux, ouais, mais si on devait en gagner qu'un seul, je prends l'ASVEL.
Tu parles du cœur, là?
Ouais.
Ah oui.
Mais bon, il faut gagner d'abord ce soir pour se mettre. Mais ce soir, ils vont être surmotivés, ça va être bien.
Eh bien écoute, je l'espère. Parce que.
S'ils sont pas motivés pour faire une belle place en play-off, pour jouer plein de choses, bon.
Ben,
ils ont montré du cœur toute la saison.
Oui.
Dijon, ils l'avaient pas, tu sentais que c'est. Mais là,
après, c'est... je sais. Alors, l'emmerdant d'avoir un coach qui te gueule tout le temps dessus, c'est que quand il y a besoin de les secouer pour les remotiver, je suis pas sûr que le message y passe.
Tu dis ça pour tes enfants?
Ouais. Désolé. non mais tu vois ce que je veux dire. Alors
oui, il faut arriver à se renouveler.
Oui, il leur fait des câlins, oui, il les encourage, oui. Et à première vue, il y a une superbe ambiance et il y a des échanges réciproques, tout ça. Et à première vue, il y a une bonne communication entre eux. Par contre, les secouer, les motiver, quand tu pourrais déjà tuer la moitié de l'année, je suis pas sûr que pour trouver la ficelle, pour trouver le discours qui va bien, enfin bon, personne te fait des discours comme l'enfer du dimanche toi, chaque match quoi.
Oh, donc, bonne référence, bravo.
Merci. Voir comment on va les remotiver pour gagner ce match-là, pour grappiller le maximum possible de points pour rester à cette quatrième place, parce qu'on n'ira pas au-dessus, faut pas rêver.
Et bah, c'est pas possible techniquement.
Non. Bah non, de toute façon,
il y a 3 victoires d'écart, donc il reste 2 matchs.
C'est mort. Et puis on a le Monaco, on a perdu une fois. L'Asvel, on a perdu aussi. Ouais, donc bon. Tout ça pour bien figurer en play-off. Play-off, les objectifs. Déjà faire notre mieux. Pour faire un lien avec ce qu'on a pu lire ce matin dans le Popu, interview de Crawford Palmer, qui disait que pour la FIBA Basket League toute pourrie, là, tout ça, qu'on aurait mieux fait de rester en Eurocup.
Mais rien ne dit qu'on a une place assurée en Coupe d'Europe l'an prochain, même en étant en play-off.
C'est exactement ça. On est en play-off, on est en FBL. Et ben, d'après ce qu'on a pu lire ce matin, c'est pas si simple que ça, puisque l'année dernière, par exemple, le 8e n'a pas eu de Coupe d'Europe.
Je crois que c'était Orléans. Le 7e, je ne sais plus si c'était pas Le Mans qui a été obligé de faire le match de qualification barrage.
Et le 6e, donc, a eu sa place en une Coupe d'Europe. Donc, en gros, la légende du « on est en play-off, on a une Coupe d'Europe », eh ben, c'est pas si sûr que ça, donc il faut finir au moins 6e. Alors 6e à la fin des playoffs ou 6e à la fin de la saison régulière encore.
Non, c'est saison régulière, parce qu'après les playoffs, tu peux pas...
Oui,
ceux qui sont éliminés en quart de finale, c'est compliqué de...
Oui, bête, question, oui, connerie de ma part, effectivement, bien vu. D'où l'importance d'en gagner 1,5.
Non, bah, si on gagne ce soir, c'est bon, on est 6e. Normalement.
Ok. Et puis donc, petit coup de gueule pour finir, là, 3 petites secondes avant qu'on rentre l'antenne, il est -1, donc il va falloir qu'on se magne. Bien fait ou pas fait, pour ou contre le choix de la FBL à la place de l'Eurocup?
L'Eurocup, pour moi, c'est plus sexy, quoi. Toi, là, parle tout à l'heure, on parle du MVP de l'Eurocup, tu as déjà été, le MVP de la FBL, je sais pas qui c'est.
Tout ça.
Il y a sûrement des très belles équipes dans les deux, mais moi je suis resté dans l'Eurocup déjà par fidélité par rapport au contrat qui avait été passé, et puis c'est fini.
Ouais, sur ces bons mots, je vais vous souhaiter, et ainsi que Pat également,
Bon match ce soir.
Et un bon match ce soir.
Alors, je sais pas s'il est sur LMBTV ou sur Bein.
Aucune idée. On va gratter.
À vous de chercher.
C'est ça, débrouillez-vous. Sinon, il y a
comme dirait
Chami, France Bleu.
À vous de pirater les trucs. Bon, je suis totalement en désaccord avec ça, évidemment.
Allez, sur ce, bonne soirée et à dans 15 jours.
À bientôt, ciao.
57 en 55. Ce sont ces images-là qui vont rester avec tout le staff de Limoges. Personne ne donnait une chance à Limoges. Limoges a battu le Grand Real en demi-finale et vient de battre le Benetton Trévise. Et c'est Richard Lacoury, 16 ans de fidélité à Limoges, qui ce soir est récompensé à l'issue d'une carrière exemplaire.
Mai 1993, tout le monde se souvient du sacre de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des champions de football. Pourtant, quelques jours plus tôt, un club de basket allait marquer à jamais l'histoire du sport français en devenant le premier à remporter un titre de champion d'Europe, tout sport confondu. Cette équipe, c'est le CSP Limoges.
Le cerveau blanc est magique, c'est la plus belle salle de France.
C'est fini, Frédéric Tortier, le ballon du monde, et voilà que c'est fini.
Nous sommes, mes amis, dans la quatrième dimension.
Le CSP est le plus grand club d'Europe.
C'est l'une des plus belles histoires de l'histoire du basket français, même du sport tout court. C'est une histoire exceptionnelle.
Le CSP.